deux choses. L'argent, le sexe. Si ça ne va pas là-dessus, eh ben, ça crache souvent. Et je mets enfin ne se désintéresser de rien de ce qui concerne l'autre. C'est vrai que peut-être mon mari est fondu de rugby, et puis c'est bientôt la Coupe du Monde de rugby, et moi, le rugby, je trouve que c'est des affreux qui se castagnent dessus, ça ne m'intéresse pas. Mais si ça l'intéresse, eh bien, je vais faire l'effort, par amour pour lui, de m'intéresser un petit peu au rugby. Et puis on s'aperçoit que souvent, il y a des éléments intéressants dans tous les domaines de la vie. Et donc, on peut y trouver un intérêt, même si on ne sera jamais un fondu de rugby. Vous voyez, ne se désintéresser de rien en ce qui concerne l'autre. On est triste, Anne et moi, quand on entend des époux qui disent « Ah, ça, c'est le côté de mon mari, je ne m'en occupe jamais. » Mais enfin, si tu l'aimes, ça ne veut pas dire qu'on est totalement interchangeable, parce qu'on a chacun ses capacités. Tel sera plus doué. Moi, pour recoudre un bouton, il me faut 20 minutes et j'ai les doigts en sang. Donc, c'est vrai que je le laisse volontiers à Anne. Mais pour autant, je m'intéresse aussi à sa couture, aux vêtements, etc. Et cela nous amène à supporter, vous, l'un l'autre. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre. Ce support l'un envers l'autre, c'est l'impératif du quotidien. Et j'ai mis, c'est surtout au début du mariage. Pourquoi ? Parce qu'au début du mariage, comme un frère me le disait tout à l'heure, eh bien, il faut que les engrenages jouent un petit peu, parce que il y a des arêtes un peu vives et donc on a besoin de support. Bah oui, moi j'ai l'habitude, vous connaissez l'exemple du dentifrice, le célébrissime, lequel presse au milieu et puis l'autre au contraire, il le roule. Bon ben voilà, il faut se supporter, quitte à acheter d'ailleurs de dentifrice, si ça ne marche pas. Et puis j'ai mis aussi surtout après quelques années de mariage, et je pourrais mettre aussi surtout après beaucoup d'années de mariage, parce que le support, on en a besoin tout le temps. Vous relirez ces différents termes qui sont des synonymes de l'amour au fond. L'affection miséricordieuse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, se supporter. C'est une vraie marque d'amour, d'accepter l'autre tel qu'il est. Et on a ce texte, encore avec l'un l'autre, en Romains 15, verset 7. « Recevez-vous l'un l'autre comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. » Alors, acceptez l'autre tel qu'il est. Ça, on parle beaucoup d'acceptation inconditionnelle. Hein, ça vous dit quelque chose. On parle beaucoup de cela, c'est vrai. De notre côté, il ne faut pas non plus que je renonce à contribuer à faire progresser l'autre. Moi, je trouve très triste quand il y en a qui disent « Oh, que voulez-vous, il est comme ça, on ne le changera jamais. » Mais si, par la grâce de Dieu, on peut contribuer à ce travail qui a commencé en nous, à cette bonne œuvre que Dieu amènera à son terme. C'est Dieu qui travaille. Mais Dieu peut utiliser aussi, et grâce à Dieu, il l'utilise souvent, il utilise ma femme pour me faire changer, dans le bon sens. Bien souvent. C'est un moyen important que Dieu a à sa disposition. De sorte que si je vois quelque chose, un travers chez mon conjoint, eh bien, je vais avoir à cœur de l'aider dans ce sens. Et lui, elle aura à cœur, ou il aura à cœur, d'accepter mon aide dans ce domaine-là, justement pour avancer. Alors parfois, au-delà du support, il y a besoin du pardon. Que toute amertume, tout emportement, toute colère, tout éclat de voix, toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute méchanceté. Mais soyez bons l'un envers l'autre, compatissants, vous pardonnant l'un l'autre comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Là encore, on retrouve une dimension vertigineuse. C'est aussi un autre impératif du quotidien. Alors nous avons besoin de tester nos pensées, nos paroles, nos actes et de verbaliser le pardon mutuel. Oh, je sais bien qu'il me pardonne. Non, non, non. Allez et demandez pardon. Vraiment, je te demande pardon d'avoir fait ce lien. Verbaliser, tu sais. Et puis ça permet de comprendre. Ah ben non, non, mais c'est pas ça qui m'a froissé. Tu te trompes. Ah bon ? Ah moi, je croyais que c'était ça. Ah ben non, c'est autre chose. Et on se comprend mieux. Acceptez aussi le pardon quand l'autre vient, 70 fois 7 fois, cette mesure. Et puis aussi, et ça j'y encourage aussi beaucoup, chacun, c'est pratiquer la prière de repentance commune. Demandez pardon devant Dieu en prière l'un avec l'autre. Alors il y a un délai maximum, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Ça peut être un principe de base. Ne jamais s'endormir, fâcher l'un envers l'autre, chacun vers sa table de nuit. Ça non. Même s'il faut se coucher à 3 heures du matin pour régler les choses. Ce n'est pas le problème. Il faut que ce soit un principe de vie. Plus positif, édifiez-vous l'un l'autre. Exhortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre comme aussi vous le faites. La vie spirituelle, c'est la charpente du couple. La prière en commun de l'un et de l'autre, et c'est comme cela que je lis le texte de 1 Pierre 3, verset 7, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Et qu'est-ce que c'est qui peut interrompre les prières ? Le manque de sagesse, le manque d'honneur, le manque de grâce. Eh bien, la prière l'un et l'autre. Et j'encourage vivement les épouses ici présentes de prier à haute voix avec leur mari. En tout cas, moi, j'en bénéficie énormément des prières de ma femme, et de les écouter. Et puis, la lecture de la Bible en commun, Que la parole du Christ habite en vous richement, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre en toute sagesse. Et comment? Par des psaumes, des hymnes. Est-ce que vous chantez en commun, tous les deux, l'un avec l'autre? Ben non, moi je préfère chanter quand il y a un chœur de 20 personnes. Mais non, ce n'est pas la peine. L'un avec l'autre, on peut chanter tous les deux. Et c'est magnifique parce que le chant, ça met en œuvre toutes les dimensions de notre être. Et ça nous amène, cette vie spirituelle en commun, ça nous amène à cultiver la dimension frère et sœur dans la foi. Alors c'est sûr que ça prend du temps. Et il faut savoir aussi prendre le temps. Parce qu'on est très chargé, puis après il y a les enfants, et puis c'est difficile de trouver un moment de prière. Et puis on... là je dois vous confesser que bien souvent, des périodes où on prie pas mal ensemble, et puis ça diminue, et puis il faut toujours avoir cette persévérance de toujours revenir, parce que la pente naturelle c'est d'arrêter. Et puis aussi savoir se déboutonner, parce que sur le plan spirituel, on a une carapace très forte. Et alors... Ils étaient l'un et l'autre nus devant Dieu et n'en avaient pas honte. Ben oui, sur le plan spirituel aussi, il faut savoir se déboutonner l'un envers l'autre. Ça peut être très concret, ça peut être, ben on sort d'un dimanche après-midi, après le message biblique, on rentre ensemble en voiture, tiens mon chéri ou ma chérie, qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Qu'est-ce que c'est qui t'a touché? Puis on commence à en parler et ça construit le couple. Alors, il y a un exemple positif, c'est Aquila et Priscilla. Ils avaient enseigné en commun, et Priscilla est mentionnée la première, Apollos. Et puis ils faisaient un service en commun, c'était des compagnons d'œuvre de Paul. Mais il y a un exemple négatif, c'est Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca avaient chacun une vie personnelle de piété réelle. On voit Isaac, quand sa femme est stérile, il prie Dieu instamment, peut-être même pendant 20 ans. Et puis quand Rebecca conçoit et qu'il y a ses enfants dans son ventre et qu'elle ne comprend pas bien ce qui se passe, eh bien elle va prier aussi l'Éternel. Mais l'un prie, l'autre prie, ils n'ont pas de communion spirituelle. Et on sait ce que ça va donner dans la famille. Il suffit de lire les chapitres... suivant, après le chapitre 26 de la Genèse, pour voir ce que ça donne. Encore un autre point, soumettez-vous l'un à l'autre. Et je pris comme texte, non pas la suite, mais le premier, ce qui introduit le paragraphe, il me semble en tout cas qu'il faudrait le ponctuer comme ça, soyez soumis l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Alors vous allez me dire, mais non, c'est la femme qui doit être soumise au mari. Attendez, l'un à l'autre, il n'est pas dit que les hommes vis-à-vis des femmes, c'est l'un à l'autre. Cette soumission, elle doit être d'abord mutuelle, car c'est une double soumission au Christ. Et on a l'exemple d'Abraham et de Sarah. C'est frappant que quand il s'agit de soumission, Pierre cite l'exemple de Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. Et pourtant, au chapitre 21 de la Genèse, Dieu a demandé positivement à Abraham d'obéir à sa femme. Vous voyez, Sarah pouvait être soumise à Abraham tout en vivant une situation où Abraham lui obéissait, faisait ce qu'elle lui avait demandé. Cela étant, c'est vrai qu'il y a une dimension supplémentaire, une soumission spécifiquement demandée pour l'épouse. Comme le disait Corbruin, je retiendrai cette idée toute ma vie, c'est un privilège de pouvoir imiter le Seigneur Jésus pour la femme. Pourquoi? Parce que le chef de la femme, c'est l'homme, et le chef du Christ, c'est Dieu. Donc, la femme a un avantage sur l'homme, elle peut imiter le Seigneur Jésus. Et puis, c'est un acte volontaire que la femme est invitée de faire par amour. Et cela sera d'autant plus facile que nous, Marie, nous montrerons de l'amour à notre femme. Et d'ailleurs, on le voit dans la pratique, c'est vrai que quand il y a un amour qui existe entre nous, cette soumission, c'est bien souvent un sujet qui ne se pose que très très rarement, concrètement. Et Dieu veuille qu'il en soit ainsi. Alors, on aurait pu allonger la liste des l'un l'autre. Mais nous allons venir à des questions un peu concrètes maintenant. Oui, c'est gentil, Joël, ce que tu nous présentes, mais moi, mon mariage, c'est pas ça. Hein? Ben oui, c'est normal que ce soit pas ça. Parce que votre mariage sera toujours imparfait. La perfection, elle est pour là-haut. Et puis, j'ai une triste nouvelle, c'est que ton conjoint est pécheur comme toi-même. Comme je disais tout à l'heure, un pécheur plus un autre pécheur. Il ne faut pas que j'attende tout de mon conjoint ou trop de mon conjoint. Seul Jésus peut nous combler pleinement. Cela étant, c'est vrai, et c'est pour cela que j'ai eu à cœur qu'on chante ce cantique 71 de Reflet, que j'aime beaucoup. Dans le mariage, si on cherche à se réaliser soi-même seulement, eh bien on fait fausse route. Parce que c'est celui qui tourne les regards vers l'autre qui va trouver sa pleine part dans le bonheur de ce frère ou de cette sœur qu'il aime, de son conjoint qu'il aime. Si on cherche seulement à se réaliser soi-même dans le mariage, mais si on conçoit le mariage comme un don, eh bien là, au contraire, on va se trouver finalement soi-même. Alors, peut-être que mon mariage ne répond pas à toutes mes attentes, mais peut-être que je n'ai pas exprimé mes attentes. Si j'attends par exemple... Prenons un exemple très trivial, que ma femme fasse tel petit plat dont je raffole, je ne lui en ai jamais parlé, eh bien je peux attendre en vain qu'elle le devine. Au début de notre mariage, j'avais cette idée stupide et fausse, que c'était bien mieux si ma femme devinait mes attentes. Alors ça marche sur certains domaines, mais ça ne marche pas partout ça. désolé. Donc il vaut mieux exprimer ses attentes. Tu sais, ça me ferait très plaisir que tu fasses ça. Ben voilà, tout simplement. Donc nous avons besoin de tendre vers un amour selon Dieu. Aimer l'autre, non pas pour ce que j'en retire, mais pour lui et pour elle, inconditionnellement. Et puis aussi avec espoir. C'est vrai que parfois, mariage ne répond pas à nos attentes. Mais l'amour se montre patient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour espère tout. Il y a encore de l'espoir. Et c'est pour cela que si dans la première partie, nous avons vu le défi de l'engagement avec la foi, ici, avec le défi de la persévérance, nous allons voir l'espérance. Et dans l'ensemble, nous voyons l'amour. Vous voyez, la foi, l'espérance et l'amour. Alors, l'exemple positif, c'est Christ et l'Église. Christ et l'Église. Il l'aime malgré ses rides, malgré ses tâches, malgré beaucoup de choses de semblables. Autre sujet important, me semble-t-il, quelle relation entretenir avec ses beaux-parents? Alors, dans le couple, on forme une unité. Puis, il y a les parents du mari. Il y a les parents de la femme. Et le théâtre de boulevard nous dit que le mari est souvent en colère contre sa belle-mère. Vous savez, c'est toujours ça. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. C'est un peu faux, moi, je trouve. Les gros problèmes, ils viennent plutôt là. Ils viennent plutôt entre la belle-mère et la belle-fille. Vous savez, elle m'a pris mon fils. Voilà. Et alors là, parfois, ça chauffe. Et là, en tant que mari, j'ai une responsabilité. J'ai un principe à mettre en œuvre. Ma femme passe avant mes parents. C'est vrai aussi pour... dans l'autre sens, hein, pour la femme. Mon mari passe avant mes parents. Ma femme passe avant mes parents. C'est vrai que ma maman, j'ai été dans ses jupes longtemps, mais là, c'est fini. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. De sorte qu'il est important de couper des dépendances. Des dépendances parfois géographiques. C'est vrai que nous encourageons les jeunes couples à ne pas habiter avec leurs parents dans la même maison, si possible. C'est mieux. Une intimité géographique. Financièrement aussi. C'est mieux d'être indépendant. C'est mieux d'être indépendant financièrement parce que sinon, ça crée une dépendance. Alors, parfois, ce n'est pas possible si on se marie alors qu'il y a encore des études en cours. Ça peut être une période comme cela, mais à terme, il vaut mieux couper cette dépendance. Et puis, affective aussi. Si à la moindre contrariété, la femme appelle sa maman pour se plaindre dans son giron et qu'elle ne peut pas en parler à son mari, c'est quand même très triste. Si j'ai quelque chose sur le cœur, c'est à mon conjoint qu'il faut que j'en parle en premier. Plutôt que de dire « Oh non, il ne comprendra pas ». Non. Ma dépendance affective, elle est vis-à-vis de mon conjoint d'abord. Cela étant, c'est important de comprendre d'où l'autre vient. Et j'aime bien cette expression à la fin de chapitre 24 de la Genèse. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Voilà, on a besoin, chacun, dans un couple, de montrer d'où on vient. Ben voilà, j'ai grandi là, je suis allé en vacances ici, puis je te montre l'album de famille, et puis il y avait le grand-père qui n'est plus là, que j'ai beaucoup aimé, etc. Voilà, comprendre d'où l'autre vient. Cela étant, il y a aussi un exercice du côté des parents. Et là, il y a des, je vois des cheveux blancs, donc je pense qu'il doit y avoir des parents d'enfants mariés. C'est qu'il faut leur laisser l'autonomie et le droit à l'erreur. C'est vrai que parfois, ça peut démanger, mais nous aussi, on s'est plantés. Et alors, laissons le droit aux autres de se planter. Abandonner l'ingérence aussi, mais néanmoins être disponible et présent s'il y a sollicitation, s'il y a un besoin. Et il y en a qui réalisent magnifiquement cet équilibre, me semble-t-il. Il y a aussi un exercice du côté des enfants, pas laisser tomber ses parents, parce que parfois on peut se renfermer tellement sur son couple qu'on en oublie ses parents. Et c'est important de marquer de l'intérêt, de donner des nouvelles, de téléphoner, d'entretenir des relations, surtout quand il y a des petits-enfants, et puis tenir compte des conseils aussi. Si d'un côté, il doit y avoir ce droit à l'erreur, cette autonomie et cette non-ingérence, de l'autre côté, c'est bien d'écouter les conseils. Écoute ton père qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. Un passage dont on pourrait dire beaucoup de choses d'ailleurs. Quelle est la place des relations intimes dans la vie du couple? Tout à l'heure, j'ai dit que les deux mamelles du divorce, c'était le sexe et l'argent. Donc, je ne développerai pas l'argent par manque de temps. Ça nécessiterait une conférence en tant que telle. L'argent dans le couple, parce que c'est très important en tant que tel. Mais sur le sexe, c'est que c'est une place très importante. C'est le troisième pied du trépied et c'est à ne pas négliger. Et vous remarquerez que le but de la Genèse, quand Dieu a institué le couple, c'est pour être ensemble. Le but, c'est la communion, c'est pas la procréation. Et ça a été une funeste erreur de l'Église que de promouvoir cette pensée pendant des siècles. Et donc, être ensemble, ça veut dire être ensemble, mais ça veut dire aussi être ensemble physiquement. Cela étant, c'est à laisser à sa place. Faites des petites statistiques, vous remarquerez que les relations intimes, ça prend moins de 1% du temps. Donc, il reste quand même les 99% qui restent. Donc, si on centre tout là-dessus, c'est un peu triste. Et puis, c'est un garde-fou contre les tentations, si elle est bien vécue, à cause de la fornication que chacun est sa propre femme et que chaque femme est son mari à elle. C'est sûr que si je suis satisfait dans ce domaine-là, ou si ma femme est satisfaite, on aura beaucoup moins la tentation de courir à droite et à gauche